Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». C'est une sous-émission de « Votre santé, un trésor » que je vous propose aujourd'hui. Une sous-émission « Médecine et soins à Nîmes ». La création de la clinique des Sophora par le docteur Gérard Renfoux. J'ai le grand plaisir de recevoir Madame Simone Girardet. Bonjour à vous, Madame Girardet.
Bonjour, Monsieur Jaume.
J'ai connu Madame Girardet alors que j'étais étudiant en médecine à Nîmes en deuxième année. Madame Girardet était la responsable du personnel à la clinique des Sophora et elle a vécu la création et les débuts de cette clinique. C'est le docteur Gérard Renfoux qui l'a créée et qui y travaillait. J'ai très bien connu son premier associé, le docteur Jean Abric, qui m'a longuement parlé de ses débuts. Lui et Gérard Renfoux s'étaient installés rue Porte d'Alès. Je confonds toujours avec la rue Porte de France, excusez-moi. Où s'est situé leur cabinet, que j'ai bien connu aussi. Alors tout d'abord, Madame Girardet, parlez-nous, s'il vous plaît, de ce cabinet. On va commencer par le cabinet qui était le premier cabinet de neuropsychiatrie à Nîmes. C'est-à-dire, avant ce cabinet, il n'y avait pas de neuropsychiatrie à Nîmes.
Pas plus à Nîmes qu'à Alès.
Dans le Gard, on pourrait dire.
Je pense que oui.
C'est-à-dire que Gérard Renfoux a créé le premier cabinet libéral oui. de neuropsychiatrie. Et donc, oui, porte d'Alès. Moi, je me rappelle très bien la maison parce que j'y étais.
Oui.
On rentrait, il y avait une grande pièce. Les bureaux, les cabinets étaient au rez-de-chaussée.
En bas.
Et étaient en bas.
Et les appartements, Gérard habitait sur les cabinets médicaux. Et mes parents habitaient sur le
juste
balcon,
à côté. Que je me rappelle quand on rentrait de soirée, je me rappelle, on avait été au cinéma avec mon épouse et lui, on l'avait raccompagné, il me dit bah, « je resterai à Nîmes ». Il avait gardé un pied-à-terre à Nîmes.
Il a toujours eu un pied-à-terre à Nîmes.
Il restait à Nîmes, ou des fois, après l'ordre, tout ça, il me disait bah, « ramène-moi chez moi ». Donc on allait, je le déposais à Nîmes.
Oui.
Donc il avait son cabinet là, il s'est tout de suite associé avec le docteur Jean Abric.
Oui. Et il a dû quitter le libéral quand il a pris la suite du docteur Pitot.
Voilà,
on ne pouvait pas à l'époque...
Faire les deux.
Faire les deux. Je ne sais pas ce qu'on peut faire maintenant, d'ailleurs.
Alors, c'est compliqué, mais je peux le dire parce que ça peut intéresser les auditeurs. Donc, à l'époque de Gérard Renfoux, quand on était médecin hospitalier, on ne faisait pas de libéral. Mais cependant, moi, je me rappelle de professeur, de patron en chirurgie qui était... peut-être un peu plus âgés à l'époque, c'est un problème d'âge, mais ils étaient chirurgiens des hôpitaux, donc ils étaient chefs de service au CHU. Là, hein. Mais dans leur jeunesse, ils étaient professeurs à l'université, ils travaillaient comme chef de service, ils étaient installés avant Montpellier, ils étaient professeurs à l'université, ils travaillaient dans un service, chef de service d'un service de chirurgie à l'hôpital, mais ils avaient un cabinet en ville, et ils avaient une clinique privée, ils avaient quatre activités. Hein. Et d'ailleurs, sur leurs ordonnances, ils avaient la délicatesse de dire docteur untel, professeur à la faculté. Et donc, moi, j'ai connu des médecins qui avaient travaillé à la rue, à l'hôpital Ruffy à Nîmes. Donc, ils travaillaient à l'hôpital qui est un hôpital, parce que je travaillais sur l'internat dans cet hôpital, à l'hôpital Ruffy, la rue de la République. Donc les médecins, il y avait les internes qui étaient internes, qui faisaient le gros du travail, mais les médecins qui avaient leur service, ils travaillaient à l'hôpital Ruffy, ils avaient leur cabinet pour les médecins en ville, et pour les chirurgiens, ils avaient leur cabinet, ils pouvaient opérer ailleurs. Donc il s'installe donc en libéral, Gérard Renfoux, revenant à Gérard Renfoux, et son projet, vous nous aviez dit dans une autre émission, vous pouvez le répéter, qu'il voulait créer une clinique. Son projet, en fait, c'était une clinique psychiatrique.
Oui.
Et il a fait médecine pour créer cette clinique. Alors,
tout
cette clinique, il va la construire sur une colline de Nîmes,
oui.
Hein, sur la route du Zès.
La rue des Sophora.
Voilà. Et c'était quoi quand il a acheté le terrain?
Alors, il a acheté une jolie villa ancienne avec des balustres en pierre. Il y avait 4000 mètres de terrain, donc un beau parc. Et il a bâti deux bâtiments, il a fait construire deux bâtiments. Autant que je me souvienne, il y avait 36 lits oui. à l'époque. Et il a commencé à travailler donc avec le docteur Jean Abric.
Alors, ils ont acheté, c'était à eux, donc je pense qu'ils ont fait une société. Alors, enfin, ça, c'est peu importe.
Après, il a fait une société, oui, mais au début,
il a acheté un nom propre.
Il a acheté à son nom propre.
Donc, oui. Il a pris la maison, il l'a transformée. Quand on rentrait dans Sofora, peut-être maintenant c'est un peu, ça fait longtemps que je n'ai pas été, mais on sentait quand même la vieille bâtisse. C'est-à-dire qu'il y avait une vieille bâtisse et puis la clinique avait poussé autour.
Voilà. Il avait branché la clinique à droite de la belle villa où il avait conservé l'administratif. Au début, puis il a fait un autre administratif qui tenait avec les chambres.
Et alors, donc il s'associe avec Jean Abric. Et alors, il y a des infirmières. Comment il a fait connaître cette clinique?
Alors, il avait donné des cours à l'école de la Maison de Santé Protestante.
La Maison de Santé Protestante qui avait une école d'infirmières.
D'infirmières, donc, il recrutait ses anciennes élèves. Ça se fait toujours comme ça. Ma remplaçante fait pareil. Il y a 20 ans que je ne travaille plus au Sofora. Mais elle me dit, j'accepte des élèves infirmières. Comme ça, j'ai les remplaçantes l'été pour les vacances et pour aussi des gens qui veulent venir travailler avec nous.
Oui, c'est relationnel. Voilà. Mais à l'époque, ça se faisait plus que maintenant, quoi. Donc, il crée une équipe d'infirmières. Est-ce qu'il y avait des aides-soignants?
Alors, oui, puisque... Mais j'avoue que les aides-soignants faisaient un peu le rôle des infirmières pratiques, à part que... Les soins techniques...
Oui, c'est les infirmières. Mais oui. À l'époque, il y avait des aides-soignants?
Il y en avait, parce que la psychiatrie n'a jamais été l'enfant chéri des spécialités de la médecine, quand même.
Alors, donc, il crée la clinique, c'était une villa, c'était 4000 mètres carrés avec une villa où vivait une famille.
Voilà.
Donc, il achète et...
Il a acheté ça.
Et ils n'étaient que deux médecins.
Oui.
Et alors, son quotidien à Gérard-en-Foux, c'était quoi? Le matin à la clinique, l'après-midi au cabinet?
Au cabinet, et puis le soir, il faisait des visites, mais ils ont ouvert aussi un cabinet à Alès.
Un cabinet secondaire?
Secondaire, il n'y avait aucun psychiatre à Alès. Donc, avec le docteur Abric, ils s'alternaient, chacun y allait un jour. Ils allaient à Bagnols-sur-Cèze dans un établissement d'enfants handicapés qui s'appelaient les Amelines.
Ah.
Là, c'était le docteur Abric qui s'en occupait. Donc, ils faisaient des journées dont je ne peux pas vous dire le nombre d'heures. Mais...
Donc, il habitait sur Nîmes, là, au-dessus des cabinets.
Voilà. Rue Portail. Mais il habitait sur Nîmes.
D'accord. Oui, parce que normalement, mais ça, c'était de mon temps aussi, mais maintenant, c'est pas pareil parce qu'il manque des médecins. Donc, on avait le droit qu'à avoir une adresse, qu'un cabinet. Mais si les soins de la population le nécessitaient, on pouvait demander à l'ordre, c'est l'ordre des médecins qui décidait, suivant la population, donc de créer un cabinet secondaire de spécialité dans une ville, dans une région. Hein. Et donc, l'ordre donnait son... enfin, faisait une enquête auprès des confrères. Hein, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça peut porter un plus? Et puis de la population. Et si ça portait un plus pour éviter des à ce moment-là, il y avait un cabinet secondaire. Alors, moi, ça m'est arrivé un peu au début des réseaux, donc ça existait. Comme je faisais la prise en charge de la douleur, je travaillais avec des cancérologues. Il n'y avait pas à l'Est de médecin de la douleur à l'époque, quand je commençais, puisque j'ai créé la spécialité. Et donc, j'avais demandé de créer un réseau avec les cancérologues d'Alès. Donc, l'ordre, après enquête, etc., m'avait donné l'autorisation d'une consultation de la douleur à Alès avec les cancérologues. Donc, on pouvait. La nomenclature de la convention médicale permettait, je ne sais pas maintenant si ça permet ou pas, de faire des visites à deux au lit du malade. Il m'est arrivé de demander à des cardiologues de venir, alors que j'étais présent au lit du malade, de faire un examen cardiologique. Ça se faisait. Donc, ils avaient un cabinet secondaire à Alès. Et ils étaient à Bagnols et ils hospitalisaient donc
au
Sofora. Et alors, l'équipe du début, est-ce que vous vous rappelez un peu?
Donc, j'ai commencé un an après l'ouverture.
Donc, vous étiez infirmière avec les piqûres, les perfusions?
Oui, mais je n'avais pas l'âge, j'étais encore à l'école parce qu'il fallait 21 ans pour travailler. Donc, j'ai attendu un an de plus pour le rejoindre l'équipe. Et c'était... Ça m'amusait parce que dans la façon dont Gérard gérait les lieux, le jardin, c'était bien tout à fait son style de gestion. on mettait pas trop de laurier rose parce qu'en mangeant les fleurs, on pouvait s'empoisonner.
Oui,
c'est ce qu'on disait à la campagne, à moi.
Oui, donc il était...
Il a vécu dans sa clinique comme il avait vécu sa jeunesse.
C'est-à-dire qu'il a créé, moi ce que j'ai ressenti dans cette clinique, c'est vraiment son œuvre, c'est-à-dire qu'il a, il a mis sa personnalité, hein, donc sa personnalité en tant qu'homme, et sa personnalité en tant que médecin, parce que les médecins ont tous une personnalité d'homme, et puis ils ont une personnalité de médecin, ce qui fait leur différence.
Oui, c'est vrai.
Et donc, moi, j'ai ressenti toujours dans cette clinique, puisque j'ai été aide-soignant, infirmier interne à la clinique, interne nommé, j'ai été aide-soignant, infirmier à la clinique, avant de le connaître. Je l'ai connu qu'après. Et, bien connu qu'après. Et j'ai ressenti toujours une personnalité thérapeutique, une personnalité médicale, c'était celle de Gérard.
Oui. Alors, il était plein d'idées.
Ah oui, il a toujours eu des idées.
Il a toujours beaucoup d'idées.
Avant notre pause musicale, je vais vous raconter une idée. On faisait des gardes, mais les médecins ne voulaient plus faire de gardes, etc. Et lui, au contraire, il était quand même un mentor des psychiatres de Nîmes, parce qu'ils avaient tous eu comme internes, ils avaient tous formé les psychiatres. Tous les psychiatres de Nîmes c'était leur patron et leur maître. Et il leur disait, mais faites des gardes de psychiatrie. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas bien, qui est hospitalisé, qui ne veut pas, il faut que vous... Il ne voulait pas, mais lui, poussait, et puis s'occupait du syndicat des psychiatres au niveau national. Mmh. Donc il était très investi dans la psychiatrie au niveau national, au niveau recherche, faisait des recherches publiées. Et donc il avait dit, il était très novateur et très à l'écoute des patients. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a fait médecine pour les patients. Je vous propose un arrêt musical avec la musique de Joseph Haydn et sa symphonie parisienne numéro 87.
Thank you.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Madame Simone Gérardet qui évoque avec nous le docteur Gérard Renfoucs et la création de la clinique des Sephora avec le docteur Gérard Renfoucs. Alors je vais vous poser une question aussi parce que c'est important. Gérard Renfoucs à la clinique a innové au niveau thérapeutique. Donc moi je connais deux innovations, c'est-à-dire qu'il a fait de la sismothérapie, ce qu'on appelle l'électrochoc, et puis il faisait des artériographies.
Oui, nous avions dû construire pas une salle de chirurgie, mais...
Une salle de radio.
Une salle spécialisée, puisqu'il fallait piquer les malades, il fallait... Voilà. Donc on avait équipé la clinique, mais... Ça n'a pas duré très longtemps.
Oui, mais la sismothérapie, ce qu'on appelle les électrochocs, c'était décrié, mais on y revient. C'est-à-dire qu'en fait, y a pas mal de bénéfices. Moi, je me rappelle d'avoir vu... Alors, moi, j'emploie les termes de psychiatrie français à l'ancienne, pas le DSM-6 américain, mais des mélancoliques qui sont des psychoses très graves où les gens autodestructeurs, c'est-à-dire qu'ils s'autodétruisaient en se faisant des fractures, etc. En se suicidant, le malade que je parle, il s'était suicidé une dizaine de fois, enfin, sautant par la fenêtre, et en sismothérapie, avec l'électrochoc, il était beaucoup mieux. Et donc, il y a eu un temps où on n'en faisait plus, et récemment, on y revient, et c'est difficile parce qu'il y a peu d'expérience. Donc, moi, quand j'étais infirmier et interne au Sephora, donc on faisait de la sismothérapie, puisque c'est les anesthésistes des franciscaines qui venaient endormir les patients qui étaient à jeun le matin avant leur déjeuner, et on faisait, donc c'était les psychiatres qui faisaient. Et M. Abric m'avait dit qu'il faisait les premières artériographies cérébrales. Une artériographie, si vous voulez, on injecte un produit iodé qui vient au niveau de la vascularisation cérébrale et on peut voir s'il y a des hémorragies, s'il y a des tumeurs, enfin, il y a toute une sémiologie radiologique. Et donc, il m'avait dit que les premiers se faisaient au Sephora.
Oui, mais Gérard n'avait pas besoin d'un anesthésiste. Il avait besoin de personne.
Mais c'est-à-dire que moi, quand je dis des anesthésistes, c'est de mon temps. C'est-à-dire que...
Le temps avait passé quand
même. Mais quand les chirurgiens n'avaient pas d'anesthésiste, c'est-à-dire que moi j'ai des bouquins d'anesthésie des années après-guerre, des années 50, il y avait l'anesthésiste et les chirurgiens qui faisaient l'anesthésie.
Mais bien sûr.
Et alors bien souvent, comme ça les embêtait un peu, ils n'aimaient pas faire les... Bien souvent, c'était l'épouse du chirurgien qui venait. Et moi, j'ai connu des chirurgiens, leur aide opératoire, leurs anesthésistes, c'était
leur femme.
Mais il n'y a rien à voir avec l'anesthésie actuelle, quand même.
Je m'en doute.
Et donc, les premiers anesthésistes sur le gars, il y avait le docteur Flessler, que j'ai bien connu.
Sylvain Flessler,
qui allait de clinique en clinique avec sa boîte et son fils est chirurgien à Nîmes. Et donc moi j'ai bien connu docteur Flessler puisque il était président de l'ordre régional des médecins. Et quand je me suis installé, je voulais faire de l'hypnose, etc. Et pratiquer l'hypnose, et j'avais été le voir chez lui. Il m'avait reçu avec gentillesse pour demander à un ancien un peu qu'est-ce qu'il pensait de mon projet, parce que moi aussi j'avais des projets, et que j'ai pu réaliser d'ailleurs aussi. Et donc il avait été très gentil. Donc il était un premier anesthésiste, et je me rappelle de repas où on me parlait de ses expériences. Donc Gérard faisait ses anesthésies.
Mais bien sûr, c'était l'homme universel.
Mais à l'époque, les médecins faisaient
tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'anesthésistes.
Non, il n'y en avait pas. Quand il a commencé en 1957-58, il n'y avait pas d'anesthésistes. Enfin, à Nîmes, il n'y en avait pas.
À Nîmes, il n'y en avait pas.
Et donc, il faisait des ponctions, plombaires, au lit des malades en visite, etc. Et il faisait des visites de psychiatrie. C'est-à-dire que le matin, il devait aller à la clinique, l'après-midi au cabinet, et le soir, il faisait ses visites de psychiatrie ou de neurologie.
De ce pourquoi on l'appelait.
Voilà, moi, je me rappelle l'avoir demandé, alors qu'il était hospitalier, mais un avis spécialisé sur un syndrome neurologique quand j'étais installé. Et il était venu gentiment me donner un avis. Et donc, on était allés ensemble au lit du malade. Ce qu'on faisait, c'est une grande richesse d'aller au lit du malade. En plus, c'est exceptionnel. C'est une richesse. Les médecins, là, on vivait quelque chose d'important. Alors, après le départ de Gérard Renfoucs, il a choisi la chefferie au CHU. Quels ont été les médecins qui ont pris sa suite? Jean Abric a continué.
Voilà, donc à continuer, c'est le docteur André Chapelle qui est venu, qui était psychiatre.
Bon, lui
qui
était est psychiatre.
Venu le remplacer. Il était avant étudiant à Montpellier. Il était originaire de Vergès,
oui.
Protestant.
Ah.
Et autant que faire se peut,
oui.
Il aimait que le personnel des Sophoras soit protestant.
Ce qui est normal et logique.
Parce qu'il avait, c'est lui qui formait les infirmières avec ses cours.
En psychiatrie, oui.
Et
alors, il faisait de la psychanalyse. Moi, j'ai bien connu
alors,
M. Chapelle.
Alors, il a commencé... La psychanalyse, ce n'était pas sa tasse de thé.
Ah, ce n'était pas sa tasse de thé.
Oh non, ouais. Et il y avait quelquefois des...
Je parle de M. Chapelle, le docteur Chapelle.
Ah, M. Chapelle, ah. Oui.
Ah, voilà, mais alors, M. Chapelle était psychanalyse, c'est
lui,
mon souvenir.
Mais il a fait sa psychanalyse avec le psychanalyste de Paris qui s'appelait
Lacan.
Jacques Lacan. Mais il s'est
c'est un lacanien, donc c'était un psychanalyste pur. Moi, je me rappelle parce que j'ai parlé avec lui, il m'a parlé de la psychanalyse, sur la pratique, sur les théorisations avec le docteur Chapelle. Donc, c'était un référent psychanalyste. Hein.
Oui, mais il s'est formé, il avait travaillé déjà en psychiatrie.
Et qui avait d'autres comme
alors, après, le docteur Nougaret,
oui, qui était installé.
Est venu se joindre au lot.
Oui.
Et puis, on avait pris comme médecin. Le docteur François Torres, qui était le plus jeune, et c'est d'ailleurs le seul survivant actuellement.
Voilà, si nous écoute, on lui dit un grand bonjour, et on dit un bonjour à son fils, qui est installé comme psychiatre en ville et qui travaille au Sophora.
Et qui a pris la suite de son père. Donc,
il y avait le docteur Temple.
Monsieur Temple est venu, mais un peu
plus tard.
À peu près comme M. Torres, parce d'accord. qu'il avait fait, avant d'être médecin, il était professeur de philosophie, de français.
D'accord.
Donc, il avait commencé sa médecine vers 20 et quelques.
D'accord, un peu plus
voilà,
tard.
Voilà, ayant fait une carrière littéraire qu'il a abandonnée.
Et qui a fait de la médecine.
Et qui a fait de la psychiatrie.
Il était extraordinaire. Moi, je l'ai eu j'ai pu le connaître quand j'étais infirmier. Et il était très rassurant, très posé. Alors,
oui.
les infirmières, les aides-soignants, les internes des Sophora, vous rappelez-vous des premiers internes?
Les premiers internes, c'était des étudiants en médecine qui avaient fait 2 ans. Donc, ils avaient l'équivalence de diplôme avec les aides-soignants.
Mmh.
Donc, on pouvait les embaucher.
C'est comme ça que je suis rentré au Sophora.
Et c'est comme ça que vous et d'autres.
Oui, bien sûr, oui, quand je dis
parce moi. Que... comme les stages de psychiatrie n'étaient pas obligatoires à l'époque...
Ouais.
Les jeunes préféraient venir être internes pendant un
bien
an.
Sûr, ouais.
Ils apprenaient le travail en travaillant et en étant payés.
Et alors, il y a des internes qui sont restés des années.
Alors, il y en a même un qui doit avoir plus de 70 ans, qui a fait sa carrière en étant médecin résident, qui est d'ailleurs un excellent médecin.
Un très, très bon médecin.
Et c'est Michel Enfreuse que vous
il
avez...
Il m'a beaucoup appris.
Voilà, qui connaît la psychiatrie et qui était... rassurant, les médecins savaient que si on l'appelait,
oui, il fallait qu'il vienne.
Il fallait qu'il monte, voilà.
Alors, jusqu'à votre départ à la retraite, puisque ça fait 20 ans que vous êtes à la retraite, l'histoire des Sophora en 3 mois, c'est une clinique qui a pris de l'ampleur, qui était une référence.
Oui, puisqu'elle a commencé avec, je crois, 36 lits, et quand je suis partie, il y en avait une centaine.
Oui, donc,
puisqu'il y avait un service ouvert, ce qui n'existait pas au début.
Oui. Et alors maintenant, il y a un hôpital de jour, c'est-à-dire que
voilà,
les patients...
C'est ce que j'appelle le service ouvert,
voilà,
l'hôpital de jour.
Ce qu'on appelle l'hôpital de jour, c'est-à-dire qu'il y a des soignants, des médecins, et moi j'ai travaillé avec Gérard Fouque, j'ai été interne puis praticien à l'hôpital de jour, donc quand il était chef de service au CHU de Nîmes, donc j'ai été interne puis après praticien. Donc il y a un hôpital de jour au Sophora, où les patients sont déposés le matin et ils ont des ateliers thérapeutiques, des soins, etc. Ils mangent et le soir, on les récupère pour rentrer chez eux. Et cet hôpital de jour s'appelle
l'hôpital Gérard Enfout.
Voilà, donc il a bien marqué. Et maintenant, avez-vous encore des contacts avec la clinique et savez-vous ce qu'elle devient?
Alors... oui, puisque le docteur Torres, qui était un peu plus jeune que moi, mais que j'ai accueilli comme interne, un interne n'ayant pas terminé ses études.
Psychiatres.
Et je l'ai retrouvé après, on avait besoin d'un médecin résident. J'avais son adresse au service militaire. Il m'avait envoyé des vœux. Et on l'a embauché, et il est venu et il est resté après comme médecin.
Vous avez des contacts alors avec le docteur
avec
Torres?
Avec M. Torres, j'ai des...
Actuellement?
Actuellement, oui.
Il est à la retraite?
Oui, parce que il a 80 ans et peut-être Maïkako.
Ah.
Mais en tous les cas, il a fait, donc son fils lui a succédé. Et il voulait quelqu'un de la famille de Gérard pour rentrer dans le circuit.
Mmh.
Bon, mon âge m'interdisant d'envisager ça. J'avais un fils en Amérique, une fille en Suisse. Donc, c'est la troisième qui est à Montpellier, qui a accepté de prendre la suite en tant que responsable de la société... civile,
oui,
immobilière.
Oui, immobilière. Donc, voilà. Votre fille est partie prenante actuellement.
Enfin, elle l'a fait un peu avec beaucoup de réticence, mais elle avait été en classe avec Stéphane Torres, ils sont du même âge.
Donc, ils se comprennent.
Donc, ils se connaissaient de longtemps.
Très bien, il nous reste à vous remercier, Madame Gérardet, d'avoir évoqué Dr Gérard Fuchs, qui est votre cousin, que vous avez très bien connu, avec qui vous avez travaillé.
Oui, et que j'ai suivi dans toutes ces pérégrinations.
Et bien, je vous remercie infiniment de nous l'avoir évoqué avec tant de gentillesse et de vérité. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Mais il n'existe pas de livre sur le docteur Gérard Fuchs, c'est un vide, comme pour le docteur Gérard Fuchs, qu'il faudrait combler. Peut-être que la direction de cet établissement, c'est-à-dire la clinique des Sephora, si elle nous écoute, le fera et fera peut-être un ouvrage et sur Gérard Fuchs et sur la clinique. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.